réplique, pensée avec Simone Veil, avec Alice Ménesson et Pascal David. Née en 1909, Simone Veil est morte le 24 août 1943 à l'hôpital d'Ashford, en Angleterre. Elle était atteinte de tuberculose et se nourrissait à peine car elle ne voulait pas dépasser les rations des Français restés en France. Elle laissait un nombre considérable de manuscrits. Parmi ceux-ci, l'Enracinement, prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain. Le livre sera édité en 1949 dans la collection Espoir qu'Albert Camus dirigeait chez Gallimard. Écoutons Camus. Pendant l'occupation, Londres a fait demander à Simone Veil un rapport sur les possibilités de redressement de la France. Simone Veil écrivit le texte publié aujourd'hui sous le titre « L'Enracinement », qui se trouve être à la fois l'exact rapport demandé et l'un des livres les plus élevés, les plus beaux qu'on ait écrit depuis fort longtemps sur notre civilisation. Avec Alice Ménesson et Pascal David, qui enseignent tous deux la philosophie, nous commencerons donc par cette œuvre testamentaire, et plus précisément, par son concept central, l'enracinement. Simone Veil n'était pas barétienne. Ses engagements la situaient même à l'extrême gauche. Que signifie pour elle l'enracinement? D'où vient qu'elle en fasse, au cœur des sombres temps, le besoin le plus important de l'âme humaine? Alice Ménesson.
Vous l'avez mentionné, l'enracinement, c'est un besoin de l'âme. Je pense que on peut s'appuyer sur la définition qu'elle propose de l'enracinement dans l'exposé des obligations, où elle écrit « L'âme humaine a besoin par-dessus tout d'être enracinée dans plusieurs milieux naturels et de communiquer avec l'univers à travers eux ». Si on prend cette définition comme point de départ, on a une bonne base pour approcher ce qui est, à mon avis, enfin c'est la manière dont je le comprends, et le cœur de cette notion d'enracinement chez Simone Veil, c'est-à-dire que c'est une notion qui recouvre un paradoxe. Le paradoxe de l'enracinement, c'est qu'il faut paradoxalement être attaché, avoir des liens vivants avec une multiplicité de milieux pour pouvoir se détacher. Et ce détachement, il est présent dans la définition que je viens de lire, puisqu'on voit que s'il y a un besoin pour l'âme d'être enracinée, c'est afin, en vue de communiquer avec l'univers. Donc dans la notion d'enracinement chez Simone Veil, il n'y a aucune idée d'un enfermement. Elle dit même plus loin dans l'enracinement que l'enracinement ne veut surtout pas dire se confiner, le repli sur soi, qu'il y a au contraire besoin d'aération, de multiplication des contacts. Parce que justement, l'enracinement doit permettre à l'être humain de se relier avec l'univers. Donc les milieux dans lesquels il s'agit de prendre racine ne sont que des intermédiaires en direction de l'univers et ne doivent pas faire écran à cet univers. C'est tout l'enjeu paradoxal en fait de cette notion d'enracinement.
Pascal David.
Oui, je pourrais compléter ce que vient de dire Alice Ménesson. Effectivement, nous sommes enracinés dans des milieux. Et de ces milieux, nous recevons, comme dit Simone Veil, la presque totalité de notre vie morale, intellectuelle, spirituelle. Nous sommes nourris par ces milieux. Ces milieux nous fournissent une nourriture. Alors qu'est-ce qu'un milieu? Un milieu, c'est une collectivité, c'est-à-dire un ensemble d'êtres humains qui entretiennent entre eux des rapports organisés, mais c'est une collectivité qui conserve vivant des trésors du passé. C'est-à-dire que cette nourriture que nous recevons d'un milieu, nous la recevons parce qu'elle nous est transmise du passé. Des trésors du passé et un pressentiment d'avenir. C'est cela que nous donne un milieu. Ce que je voudrais dire, c'est que ce concept de milieu, il me semble très important aujourd'hui, parce que c'est un concept qui ne passe pas par l'opposition entre nature et culture. Le milieu est tout aussi bien culturel que naturel. je ne sais pas moi, par exemple, quand on traverse la Bourgogne et qu'on voit les vignes qui forment ce paysage, nous sommes dans un milieu qui est tout aussi bien naturel que culturel. Et d'autre part, le milieu ne passe pas ou ne fait pas d'opposition entre l'inscription locale, le localisme on pourrait dire, et la mondialisation. Il n'y a pas ce choix, il n'y a pas cette polarité. Comme l'a dit très bien Alice, on s'inscrit dans un milieu pour s'ouvrir vers l'univers tout entier d'une part, et d'autre part vers le bien qui n'est pas de ce monde, dit Simone Veil.
Oui, alors l'enracinement est un besoin fondamental de l'âme humaine. L'enracinement dans un milieu, ce n'est pas un confinement, ce n'est pas une fermeture, il n'empêche. C'est ce milieu qui permet à l'âme de devenir quelque chose. Elle écrit « La collectivité constitue l'unique organe de conservation des trésors spirituels amassés par les morts, l'unique organe de transmission par lequel les morts puissent parler aux vivants. » Donc, prééminence du passé, parce que c'est l'avenir, on ne sait pas ce qu'il sera, mais la conservation du passé est absolument essentielle. Ce n'est pas n'importe quel passé, c'est le passé d'une collectivité, et pas non plus de n'importe quelle collectivité, c'est notamment le passé d'une patrie. Le concept de patriotisme est central dans l'enracinement, un patriotisme qui n'est pas l'énivrement de la gloire, qui est ce qu'elle appelle la tendresse poignante pour une chose belle, précieuse et périssable. C'est pas le patriotisme de la grandeur, mais c'est ce qu'elle appelle aussi le patriotisme de compassion. Et Simone Veil a cette phrase absolument magnifique. La pensée de la faiblesse peut enflammer l'amour comme celle de la force, mais c'est d'une flamme bien autrement pure. La compassion pour la fragilité est toujours liée à l'amour pour la véritable beauté, parce que nous sentons vivement que les choses vraiment belles devraient être assurées d'une existence éternelle et ne le sont pas. Donc, patriotisme de compassion qui va de pair, donc qui accompagne la notion d'enracinement, et en même temps patriotisme très surprenant sous la plume de Simone Veil, connue jusqu'alors pour son internationalisme radical, très exigeant. Alors comment expliquer cette évolution et quelle place faut-il accorder dans l'esprit de Simone Veil et peut-être aujourd'hui aussi à ce patriotisme ? Alice Médecin.
Je pense que, oui, vous avez raison de souligner l'évolution qui peut paraître très surprenante de Simone Veil à l'égard du patriotisme. Ce qu'il faut observer, c'est la manière dont se construit. Elle est toujours opposée au patriotisme quand il repose, comme vous l'avez, sur le sentiment de la grandeur, sur une exaltation de la grandeur. Et dans l'enracinement, elle dit qu'il faut que nous devons nous corriger d'une fausse perception de la grandeur. Elle dit qu'il faut, par l'éducation, que c'est une des fonctions qu'elle assigne à l'éducation, modifier dans chaque être humain la distribution du sentiment de la grandeur. Il faut que nous parvenions à nous rendre sensibles à une autre forme de grandeur que celle qui repose sur la force, la puissance, la domination, le pouvoir. Et elle s'ouvre, du coup, à partir de 1938, à cette pensée qu'il y a une manière d'être fort tout en restant faible. C'est la force qui est propre au surnaturel, c'est une force qui agit, qui est une force agissante, qui malgré tout est entachée de faiblesse, qui n'est pas force, pas comme la force. Et cette ressource que constitue pour elle cette force spirituelle, elle est présente dans les grandes œuvres de l'humanité. Ces grandes œuvres de l'humanité sont justement ce qu'a pour tâche de conserver la collectivité qu'elle nomme la patrie. Et donc quand la patrie conserve des trésors du passé que sont ces grandes œuvres, il y a dans ces grandes œuvres, il y a comme ressource, gît en elle, la ressource de cette spiritualité. Et c'est au contact de cette ressource-là qu'il faut porter les êtres humains, pour qu'en eux aussi croisse cette force d'ordre spirituel qui est le seul contrepoids possible au déchaînement de violence qui s'empare quand il y a justement notamment des passions nationalistes.
Pascal David.
Oui, le besoin du passé n'est pas un besoin de l'histoire. Il ne s'agit pas de chercher un sens à l'histoire. Comme vous l'avez dit, le besoin du passé, c'est un besoin lié aux œuvres de premier ordre, comme dit Simone Veil, parce que ces œuvres-là orientent notre regard autrement. Cette notion d'orientation du regard est très importante chez Simone Veil. Ces œuvres orientent notre regard vers le bien, vers quelque chose qui n'est pas de ce monde, et donc nous élèvent. Nous n'avons pas en nous-mêmes un principe d'élévation. Nous n'avons pas du bien qui serait inscrit en nous. Et l'avenir ne nous donne rien. C'est pour ça que nous avons besoin du passé, pour y chercher une inspiration, des œuvres qui cristallisent un bien et qui vont nous aider à nous tourner vers ce bien impersonnel.
Oui, mais rappelons les circonstances. C'est en 1942, à Londres, donc, que Simone Veil écrit ce manuscrit, dont Camus d'ailleurs choisira le titre, Un enracinement. 1942, la date est évidemment importante. 1938, c'était les accords de Munich. Et à cette époque, Simone Veil était non seulement internationaliste, mais pacifiste. Pacifisme intégral. Certes, elle n'a jamais été une admiratrice de la force, mais à ce moment-là, c'était autre chose. Élève, disciple d'Alain, elle pensait que la paix était la plus haute valeur. Oui. Alain avait fait la guerre de 14, il s'était engagé à l'âge de 43 ans, etc. Et il en était sorti avec cette idée, jamais la guerre, jamais plus la guerre. Et d'ailleurs, il est resté, lui, ancré dans cette position. Mais au moment de Munich, Simone Veil écrit, les Tchèques peuvent interdire le Parti communiste et exclure les Juifs des fonctions quelque peu importantes, sans perdre quoi que ce soit de leur vie nationale. Bref, injustice pour injustice, puisqu'il doit y en avoir une de toute manière, choisissons celle qui risque le moins d'amener une guerre. Donc elle était prête à tous les sacrifices pour les Tchèques, afin qu'il n'y ait pas de guerre. Et puis 1939, Hitler envahit Prague, la Tchécoslovaquie, Prague, et là, elle change.
Oui.
Et elle change, et en même temps, 1940, ce qu'elle découvre en 1940 est terrible. Les Français n'avaient pas autre chose que la France à qui être fidèle, mais quand ils l'abandonnèrent pour un moment en juin 1940, on vit combien peut être hideux et pitoyable le spectacle d'un peuple qui n'est lié à rien par aucune fidélité. Le peuple français en juin et juillet 40 n'a pas été un peuple à qui des escrocs cachés dans l'ombre ont soudain par surprise volé sa patrie. C'est un peuple qui a ouvert la main et laissé la patrie tomber par terre. Alors c'est une vision des choses oubliée aujourd'hui parce que Pétain, ça évoque la révolution nationale, donc un sursaut de nationalistes, et elle dit tout autre chose. On a laissé tomber la patrie par terre et elle dit être fidèle à la France. Donc tout d'un coup surgit le concept de fidélité, qui n'est pas un concept d'extrême-gauche, et peut-être pas de gauche non plus. C'est la fidélité qui a manqué à la France. La fidélité. Et donc, il me semble que c'est dans ce cadre-là qu'on peut comprendre le patriotisme de compassion de Simone Veil. C'est-à-dire, elle abjure son pacifisme, et elle éprouve un sentiment de pitié, justement, pour ce qu'est devenue la France. Et en même temps, elle se dit que si les Français ne sont pas fidèles à la France, alors ils seront complètement déracinés, et ce déracinement sera un malheur définitif et fatal. Alice Ménosson.
Oui, mais je crois que vous avez raison, oui, c'est ça. On peut être fidèle, la fidélité reprend tout son sens et toute son urgence, même quand la patrie est faible, quand elle est devenue quelque chose de faible, qui est menacé de disparition. À ce titre-là, oui, je suis tout à fait d'accord, c'est véritablement un pacifisme de compassion. Et en revanche, quand la nation veut se faire conquérante, elle dit à un moment, les nations apparaissent quand on prend les armes, quand la patrie veut être conquérante, là, évidemment, il n'y a pas de patriotisme, il n'y a pas de fidélité pure à cette nation possible, oui.
C'est ça, si elle se tourne vers la patrie, si la patrie devient, on pourrait dire, une réalité pour elle, c'est parce qu'elle est en danger. Mmh. C'est vraiment à ce moment-là que ça se passe.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Elle devient une réalité pour elle, c'est le danger qu'elle court, et en même temps, donc, mais ça veut dire qu'elle comprend aussi qu'elle est un milieu nourricier et qu'elle ne, que les Français ne s'ils s'en passent, eh bien, déracinés complètement, leur âme sera mortellement affectée, atteinte.
Oui.
Pascal David.
Il faut dire que Simone Veil a été partie prenante de l'exode. Elle a quitté Paris, elle a fui Paris en juin 1940. Et à ce moment-là, elle voit ce peuple perdu, ce peuple qui perd toute consistance, toute fidélité.
Et donc cette fidélité, le peuple en a besoin. Donc c'est un besoin de l'âme. Et alors c'est encore une fois, je reviens à ce qu'elle était avant. Simone Pétremont, sa condisciple, sa grande amie, a écrit une biographie très fouillée de Simone Veil. Et elle rappelle qu'à la cité universitaire, quand elle y habitait, eh bien, on lui a demandé, la femme du directeur de la cité lui a demandé de quêter dans les rues pour les orphelins de la mer. Les orphelins de la mer, c'était les fils de pêcheurs. Et elle devait accompagner cette quête d'un signe tricolore. Et quand Simone Veil et ses amis ont appris ça, ils ont été absolument furieux. Simone Pétremont se rend compte qu'il fallait avoir une horreur inconditionnelle pour le tricolore. Sinon, on était mal vu. Et ça a été l'occasion de ce qui aurait pu devenir une rupture entre les deux amis. Horreur inconditionnelle pour le tricolore dans les années 20. Et puis, tout d'un coup, découverte de l'enracinement, découverte du patriotisme dans les années noires. Donc c'est quand même une mutation considérable.
Avec une nuance cependant que je voudrais apporter, c'est que cette redécouverte du tricolore, c'est pas exactement une redécouverte du tricolore. C'est-à-dire que à aucun moment l'enracinement ne considère et ne voit dans la patrie la fin ultime. La fin ultime reste toujours en fait la jonction de l'individu avec l'universel ou le bien situé hors du monde. Voilà.
Oui.
Et jamais la patrie n'est le but.
Oui,
Pascal David.
Elle est un moyen.
La patrie est un milieu nécessaire à la vie de l'âme, dans lequel nous sommes enracinés, mais ce n'est pas le seul. Comme dit Simone Veil, on a besoin d'avoir plusieurs racines, d'être enraciné dans plusieurs milieux. Et il y a d'autres milieux géographiques que la patrie, comme par exemple l'Occitanie, ce milieu qui va de Barcelone à Toulouse. Là, il y a un milieu réel, consistant, dans lequel on s'enracine, le nord de la France, la Flandre, je sais pas moi, de Lille à Bruxelles, là il y a un milieu, donc il y a des milieux qui sont transnationaux aussi. Les frontières ne délimitent pas des milieux uniques. On peut s'inscrire dans des milieux qui sont des milieux comme un syndicat, par exemple. Un syndicat est un milieu dans lequel on s'enracine parce qu'il porte un passé, une région, une maison de famille, une école, un monastère, etc. Donc on s'inscrit dans différents milieux. La patrie en est un parmi ces différents milieux.
Oui, alors, un dernier mot quand même sur le patriotisme. Elle était prête, Simone Veil, en 1938, à livrer la Tchécoslovaquie à son destin. Et aujourd'hui, c'est un penseur tchèque, un penseur et un romancier tchèque, qui retrouve presque terme à terme l'idée de patriotisme de compassion. Dans L'ignorance, Kundera écrit, L'ignorance, son avant-dernier roman, « Être prêt à donner sa vie pour son pays, toutes les nations ont connu cette tentation du sacrifice, les Allemands, les Russes, mais ce sont de grands peuples. Leur patriotisme est différent, ils sont exaltés par leur gloire, leur importance, leur mission universelle. Les Tchèques aiment leur patrie, non parce qu'elle était grande, mais parce qu'elle était petite et sans cesse en péril. Leur patriotisme, c'était une immense compassion pour leur pays. » Une étrange ironie de l'histoire que, justement, cette idée de Simone Veil soit reprise dans l'autre Europe. Miłosz, penseur polonais d'ailleurs, était un grand admirateur de Simone Veil, mais au sein de l'autre Europe, par un romancier tchèque. C'est quand même saisissant. Mais alors, dans l'enracinement, le livre commence par cette phrase qui prend toute notre modernité à contre-pied. La notion d'obligation prime celle de droit qui lui est subordonnée et relative. Il faut commencer par les obligations. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, que penser de cela? surtout à l'époque de l'expansion illimitée des droits individuels. Et comme vous enseignez la philosophie tous les deux, vous, Pascal David, à l'Université catholique de Lyon, et vous, Alice Ménessant, au lycée Victor Duruy, est-ce que la pensée de Simone Veil, vous en parlez à vos élèves, est-ce qu'elle a un retentissement en eux?
Eh bien oui, j'avoue que Simone Veil est entrée au programme des classes de philosophie de terminale depuis la réforme de Blanquer, et je ne me prive pas depuis lors de citer, de travailler les textes et la pensée de Simone Veil, et ça se passe très bien auprès des élèves, et notamment j'ai soumis dans ma classe l'année dernière notamment cet exposé des obligations qui a énormément intéressé les élèves. Je pense que Simone Veil est une philosophe qu'on peut encourager à lire. Elle a un style absolument limpide, d'un très grand dépouillement, un style qui a quelques aspects classiques à ce titre.
Oui, ça jargonne pas, effectivement.
Aucun jargon. Tout à fait. Aucun jargon. Rien dans la langue ne fait obstacle à la compréhension. Oui. C'est précieux. Surtout moi qui ai des jeunes élèves. Donc c'est très précieux.
Rien dans la langue, mais dans la mentalité peut-être.
Ah, alors justement, je pense que cette notion d'obligation peut heurter des jeunes gens de notre époque, mais il faut l'expliquer. Il faut tout simplement l'expliquer, il faut rétrocéder d'un pas, c'est-à-dire comprendre que si nous avons des obligations, nous avons des obligations à l'égard du corps et à l'égard de l'âme, parce qu'il y a justement il y a des besoins du corps et il y a des besoins de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire que cette notion de besoin? Alors, besoin du corps, on le voit simplement, assez facilement, directement. Si les besoins du corps ne sont pas satisfaits, la mort s'ensuit. Et cette notion des besoins de l'âme, elle dit pour la pensée et pour les énumérer qu'ils sont analogues aux besoins du corps. Donc les besoins de l'âme sont analogues aux besoins du corps. Parce que la condition de l'homme, telle qu'elle est faite à l'homme, c'est d'être une exigence. Là, je vais m'appuyer sur son texte, La personne et le sacré. C'est être d'une exigence de bien, quelque chose de profondément enfoui au cœur de l'être humain. S'attend à ce qu'on lui fasse du bien. Est désir d'un bien qui soit absolu, inconditionné. Et ce désir et cette exigence sont enfoncés dans une chair fragile, vulnérable, exposée aux coups du sort, aux aléas, au mal que les autres hommes peuvent lui faire. Par conséquent, il y a quelque chose d'impossible dans la vie, puisque nous sommes animés par cette exigence qu'on nous fasse du bien et nous sommes exposés au malheur et à la mort. Et c'est vraiment ça l'origine de cette notion d'obligation. La pensée de la mort et le risque du malheur pèsent en permanence sur les êtres humains. Et il faut s'efforcer, et c'est l'effort de pensée politique de l'enracinement, de penser des conditions politiques et sociales qui permettent, dans la mesure du possible, que les êtres humains ne se blessent pas, parce que si on blesse cette exigence de bien en l'homme, il sombre dans le malheur, il sombre dans le désespoir et il rate sa destinée, qui est finalement ce passage à l'impersonnel.
Ce qui intéresse moi j'ai enseigné 12 ans au lycée avant d'enseigner à l'université, et je parlais de Simone Veil bien qu'elle n'était pas encore officiellement entrée dans le programme. Et d'abord, ce qui peut toucher les élèves, c'est l'itinéraire de Simone Veil. C'est-à-dire, en amont de ses thèses, c'est son exigence de vérité, sa manière de vivre. L'exemple qu'elle donne, c'est un témoin d'une vie intégralement orientée vers la vérité, une vie sans concession. Ça concerne. Vous venez de dire, Alice Ménessant, là, vous parlez des besoins de l'âme, m'est venue à l'esprit une phrase de Simone Veil qui dit « Nous avons besoin de silence chaleureux, on nous donne du tumulte glacé ». Ce qui caractérise notre époque aujourd'hui, c'est d'un tumulte glacé. Et aussi bien le silence que la solitude sont des besoins de l'âme. Et je pense que ces besoins de l'âme sont inscrits en nous. Et donc, lorsqu'ils sont formulés auprès des élèves, auprès des étudiants, les élèves et les étudiants comprennent, ressentent, éprouvent que c'est un véritable besoin. Et donc, ils comprennent que la pensée de Simone Veil les concerne, les aide à vivre.
En même temps, quand on en vient à ces besoins, chez Simone Veil, c'est absolument fascinant. Et là encore, ça va à l'encontre de la doxa, de l'opinion régnante. On a, dit Simone Veil, un besoin d'égalité, ce que tout le monde comprend aujourd'hui, bien sûr.
Et de hiérarchie.
Un besoin de liberté, évidemment, mais un besoin d'obéissance. Un besoin de risque et, ajoute-t-elle, un besoin de sécurité. La sécurité est un besoin essentiel de l'âme. La sécurité signifie que l'âme n'est pas sous le poids de la peur ou de la terreur, excepté par l'effet d'un concours de circonstances accidentelles et pour des moments rares et courts. Là, c'est tout à fait extraordinaire. Elle marie ce qui apparaît comme des contraires aujourd'hui. La gauche, disons, invoque la liberté, l'égalité, et parle très souvent de sentiment d'insécurité, et l'obsession sécuritaire est considérée comme très dangereuse, de même d'ailleurs que l'obsession identitaire. Donc Simone Veil marie ce que l'on veut à toute force opposer aujourd'hui. Et là, je réitère ma question, est-ce qu'elle a des chances d'être entendue?
Ça c'est une vaste question. Ça, je ne sais pas si elle a des chances d'être entendue. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est sûr, c'est que ce mariage des contraires, c'est quelque chose qui est au cœur de sa pensée. C'est que tout ce qu'il faut s'efforcer d'atteindre, que le point, on pourrait dire, de vertu, c'est un point, ou le point d'équilibre ou d'harmonie qu'il faut s'efforcer de trouver, suppose dans l'existence humaine comme dans la collectivité, une harmonie des contraires, c'est-à-dire une union des contraires. Donc il ne faut pas chercher un entre-deux, entre voilà, la sécurité fait. Et
c'est
le risque.
C'est pas un juste milieu.
C'est pas un juste milieu.
Oui, non,
il faut qu'il
exactement.
Y ait à la fois la plénitude du risque et oui. à la fois la plénitude de la sécurité. Voilà. Et ça, je pense que cette pensée de l'union des contraires, comme le point d'harmonie ou d'équilibre entre les contraires qu'il faut s'efforcer d'atteindre, qu'il ne soit pas un juste milieu, ça c'est quelque chose qu'on peut expliquer et qui s'entend, à mon avis, qui s'entend. Qu'on puisse dire qu'on n'a pas besoin de passer sa vie dans l'eau tiède et qu'on a besoin de connaître et à la fois le chaud et à la fois le froid, ça peut s'entendre.
Vous êtes d'accord, Pascal David ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que ces différents besoins, aujourd'hui, nous les ressentons tous dans notre chair et c'est à la communauté... politique, d'assurer ses besoins.
Oui, c'est à la communauté politique de l'assurer, et c'est à nous, peut-être, nous tous, de comprendre la légitimité de tous ces besoins, au lieu de les opposer. Je pense, en vous écoutant tous deux, à une grande figure de la pensée contemporaine, Jacques Julliard, qui vient de disparaître.
Oui, grand lecteur de Simone Veil.
Voilà. Grand lecteur de Simone Veil, lecteur admiratif, il lui a consacré un petit livre, Le choc Simone Veil. Mais il est très intéressant parce que la gauche l'a abandonné. Mais pourquoi ne faisait-il plus partie de cette gauche? Parce que précisément, elle-même avait laissé tomber un certain nombre de ses principes. Et il disait la laïcité, l'école, la nation, donc la patrie, et la sécurité. C'est extraordinaire. Donc, lui, Julliard disait que c'était des besoins essentiels qu'il fallait justement accepter, défendre ensemble, mais il se trouvait loin des siens, précisément parce qu'il voulait être fidèle à cette leçon de Simone Veil. Donc, pour elle, elle était déjà en porte-à-faux avec son époque, comme le dit Eugénie Bastier dans les très beaux articles qu'elle a consacrés à Simone Veil pour Le Figaro. L'existentialisme définissait l'homme par l'arrachement. L'arrachement et le refus des limites. Elle, c'est l'enracinement, l'acceptation des limites, les besoins conjugués de l'âme humaine. Et c'est un message toujours aussi difficile à faire entendre. Alice Médecin.
Je dirais que pour ce que vous venez de dire, je pense que ce que Simone Veil aurait pu dire, c'est qu'on ne peut rien faire entendre tant qu'une vie sociale et politique est dominée par une pensée de parti. Et que la pensée de parti, c'est pas seulement la question des partis politiques, ça se répand dans une population sous la forme de vous êtes pour ou contre. Et que quand cette manière de concevoir la pensée s'est imposée dans un peuple, en fait, on ne peut plus rien dire ni véritablement entendre. C'est pourquoi elle avait rédigé cette note sur la suppression des partis politiques, qui est véritablement absolument décisive et incontournable. Parce que pour elle, voilà, dès qu'on pense pour ou contre, c'est que la logique des partis nous a gagné, alors même qu'on n'est pas adhérent dans un parti, et plus rien de vrai... et ne peut se laisser entendre.
Rien de vrai ne peut se faire entendre.
Simone
Veil refuse David.
La logique du « nous ». Elle dit « quand je parle en tant que, en tant que communiste, en tant qu'homme de droite, en tant que membre de tel ou tel courant de pensée, c'est déjà une défaite de la pensée. C'est déjà renoncer à penser par soi-même. L'acte de pensée est toujours un acte individuel, c'est un individu qui pense, c'est pas une collectivité. Et cet acte de pensée n'est pas là pour affirmer cette individualité, mais est là pour se tourner vers une vérité impersonnelle. Je prends un exemple, par exemple quand on fait une addition de plus 2 égale 4, si l'addition est juste, si le raisonnement est juste, ma personne disparaît derrière l'impersonnel, derrière la vérité impersonnelle. S'il y a marque de ma personne dans le raisonnement, c'est parce qu'il y a une erreur. Donc, il s'agit de se détacher ou de se dégager du « nous », des pensées toutes faites, des pensées collectives, de l'emprise du collectif, pour penser par soi-même et se tourner vers l'impersonnel.
Et se tourner vers l'impersonnel. Vous disiez tout à l'heure aussi, Pascal David, que les étudiants aujourd'hui pouvaient être fascinés par l'engagement de Simone Veil dans sa pensée.
Oui.
Par sa manière, justement, d'exister. Mais alors, ça, c'est peut-être aussi son côté insupportable. Il faut quand même y faire allusion. La Vierge Rouge, comme on l'appelait à l'école normale. Mais Gustave Thibon a accueilli Simone Veil dans les champs à Saint-Marcel-d'Ardèche parce que elle voulait travailler. Elle veut travailler dans les champs, après elle veut travailler en usine. Mais voilà, simplement, elle refuse la chambre modeste qu'il lui offre. Et donc, il est obligé de l'installer dans une maison à demi ruinée, au bord du fleuve. Et il dit ceci qui est extraordinaire, elle ne souffrait pas que le cours des événements ou la bienveillance des amis vint déplacer d'un pouce les jalons par sa volonté d'immolation. La façon dont elle montait la garde autour du vide témoignait encore d'un terrible souci d'elle-même. Et il ajoute, il a cette phrase extraordinaire, elle qui pour son plaisir ou son besoin n'aurait pas accepté le plus mince sacrifice de son prochain, semblait ne pas tenir compte des complications, voire des souffrances qu'elle introduisait dans la vie des autres dès qu'il s'agissait de réaliser sa vocation à l'anéantissement. Une abnégation, disons, très envahissante.
Oui.
Pascal David.
Mais c'est ça. Simone Veil a une vocation. Une vocation, c'est-à-dire une nécessité intérieure. Et elle n'est pas prête à transiger dans la poursuite de cette nécessité intérieure, dans sa vocation propre. Mais ce que je voudrais dire, c'est, indépendamment de ce détail avec Gustave Thibon, il y a l'idée chez Simone Veil qu'on pense toujours à partir de son expérience. La pensée n'est pas spéculative, n'est pas abstraite. On fait une épreuve du réel et on pense à partir de cette épreuve du réel. Et on pense d'ailleurs au service de la rencontre du réel. Tout l'itinéraire de Simone Veil, c'est le passage du rêve, de l'imaginaire, vers la réalité. Il s'agit de sortir de son monde intérieur, de son discours intérieur, de son rêve, pour aller vers la réalité. C'est ça qu'elle cherche à chaque fois, aller vers la réalité.
Oui, c'est d'ailleurs pourquoi...
Entrer en contact avec la réalité.
Elle a eu une très grande influence sur une romancière anglaise, qui était Iris Murdoch.
Oui.
Iris Murdoch, c'était ça, c'est-à-dire, pour elle, il fallait que le romancier soit capable de sortir du fantasme.
Oui.
Il y a deux mots en anglais pour l'imagination, fantasy, imagination. La fantasy, c'est le fantasme, c'est-à-dire tout ce qu'on construit autour de soi, sur soi, pour soi. Et l'imagination, c'est ce qui permet d'aller vers d'autres vies que la mienne, comme aurait dit Emmanuel Carrère. Et Iris Murdoch ne cesse de se référer à Simone Veil, justement, pour célébrer ce que Simone Veil place au plus haut, l'attention. Pourquoi cette importance de l'attention chez Simone Veil et Alice Ménosson?
Eh bien, je pense en lien avec ce que vous venez de dire, Pascal David et vous-même, à savoir, le but, c'est de sortir d'une sorte de rêve dans laquelle nous sommes toujours d'abord placés pour atteindre la réalité. Alors, ce rêve, en fait, on peut le dire très simplement, en quoi consiste-t-il? Pourquoi sommes-nous d'abord dans une forme d'illusion, dans une forme de rêve? Parce que nous occupons une position centrale qu'elle dit être imaginaire. La vie se vit de telle sorte que l'être humain a l'impression qu'il est au centre du monde. Et donc l'effort pour atteindre la réalité, rejoindre la réalité, sortir du rêve, c'est tout l'effort où l'attention va jouer le rôle clé, parce que c'est l'effort pour s'apercevoir, se rendre attentif, réaliser petit à petit que quelque chose d'autre que moi a autant de réalité que moi. Et le seul organe par où on peut se rendre sensible la réalité pleine et entière de quelque chose d'autre que soi, c'est l'attention. Et c'est donc, voilà...
Et elle dit d'ailleurs que l'attention devrait être l'unique objet de l'éducation.
Absolument. Oui. Ça note sur le bon usage des études scolaires, qui est précieuse.
L'attention, c'est le contraire de l'affirmation de soi. C'est être vide, disponible à l'objet que nous avons devant nous, de telle manière que nous puissions l'accueillir. L'attention, c'est renoncer à se placer au centre du monde. Naturellement, nous nous plaçons au centre du monde. Nous pensons que nos malheurs à nous, ceux de nos proches, ont plus de réalité, de consistance que ce qui se passe loin de nous, dans le temps ou dans l'espace. Et donc, l'acte d'attention, cet exercice, c'est un travail de soi sur soi et transformation de soi, de telle manière qu'on perd la perspective, comme dit Simone Veil, qu'on renonce à se placer au centre du monde. Et je crois que l'attention est vraiment un enjeu de notre époque. Simone Veil est vraiment... prophète, on pourrait dire, oui. Pensant cet acte d'attention. Aujourd'hui, l'attention, il me semble, se disperse sans cesse. Oui. On lit un roman tout en regardant les messages qui nous arrivent sur notre téléphone, etc. On fait toujours tout en même temps. Et du coup, on perd cette capacité qui se projette aussi bien sur un grand roman que sur quelqu'un d'autre, que sur un raisonnement.
Que sur un paysage, bien sûr.
On ne peut raisonner ou voir un paysage que si on sait faire attention. Et je dirais, on peut raisonner un paysage que si on n'interpose pas en permanence un écran de smartphone entre soi et le paysage.
Absolument. Et alors, Simone Veil a cette phrase très belle. Il y a quelque chose dans notre âme qui répugne à la véritable attention, beaucoup plus violemment que la chair ne répugne à la fatigue. Ce quelque chose est beaucoup plus proche du mal que la chair. C'est pourquoi toutes les fois, qu'on fait vraiment attention, on détruit du mal en soi.
Oui, c'est moral, l'attention.
L'attention, c'est moral.
Oui. Voilà.
Je pense que c'est important de voir que, en fait, on est attentif à ce que l'on aime. Il y a une corrélation, un lien inséparable entre l'amour et l'attention chez Simone Veil. Et ce qui peut venir soutenir l'effort d'attention d'un être humain qui s'efforce de quitter sa position centrale imaginaire, où seulement ce qui lui est proche et le touche, lui est présent, lui paraît réel, c'est la beauté. Donc ce qui répond à notre amour, ce qu'on aime, ce qu'on peut aimer, c'est ce qui est beau. Et le soutien, ce qui vient soutenir l'effort d'attention que l'on peut faire, c'est la beauté. Et le premier rôle là-dedans, dans la pensée de Simone Veil, c'est toujours la beauté du monde.
Oui, c'est
la
vrai.
Beauté de l'univers tout entier.
C'est d'ailleurs sans doute ce à quoi Camus était particulièrement sensible.
Oui, indéniablement.
Sans doute. Mais alors, là, je vais aborder un sujet un peu délicat. C'est celui de l'antijudaïsme de Simone Veil. J'ai sous les yeux le livre très fouillé, très honnête, de Robert Chenavier, Simone Veil, le juif antisémite, point d'interrogation. Il défend Simone Veil, mais en même temps, il nous révèle des choses. Et il nous révèle notamment ceci. En 1974, il y a eu un colloque à Cerisy-la-Salle, Vigueur d'Alain, rigueur de Simone Veil. Maurice Schumann, qui a été le condisciple aussi de Simone Veil, était à ce colloque. Et il dit ceci. En 42, Simone Veil lui demande « Avez-vous lu le livre de Saül ?» Je lui répondis que je ne l'avais pas lu. Et alors, elle dit ceci. « Savez-vous que si Saül est puni par l'Éternel, ce n'est pas parce qu'il a tué tous les Amalécites, y compris les femmes et les enfants, mais parce qu'il les a tués tous sauf un, qu'il a épargné le roi. » Et elle ajoute, comment pouvons-nous condamner les holocaustes qui se préparent ou qui se perpètrent autour de nous si nous ne condamnons pas, ou même si nous reconnaissons comme vérité de la foi, les holocaustes sous prétexte qu'ils se sont déroulés il y a un certain nombre de millénaires, comme si le temps faisait quelque chose à l'affaire. Nous sommes en 1942. Personne encore n'ose parler d'holocauste pour ce qui se passe. Elle a cette lucidité, elle le dit. Elle le dit, elle part de la... Elle dit oui, mais on peut pas les condamner parce que il y a eu l'Ancien Testament, il y a eu elle reconnaît les rares textes qu'elle repêche de l'Ancien Testament, les psaumes,
le livre de
Job,
Isaïe, etc.
Elle dit ça vient d'autres traditions. La tradition d'Israël doit être perdue. Le Nouveau Testament s'oppose complètement à l'Ancien. C'est un écho à Marcion. Et là, tout d'un coup, en 1942, elle dit ça. Donc, elle a changé sur la question de la patrie en 1939. Elle a évolué, elle a été marquée par Hitler. Et sur ce thème-là, elle ne bouge pas, même en 1942. Alors, comment faire avec ça, Pascal David ?
Alors, d'abord, il faut rappeler que Simone Veil elle-même est juive. Donc, son rapport au judaïsme n'est pas neutre. Enfin, il est marqué parce que il est exacerbé, parce que c'est une tradition à laquelle, je ne dirais pas elle appartient, mais à laquelle sa famille, en tout cas, appartient. Effectivement, il y a un point là d'achoppement, on pourrait dire, dans l'œuvre de Simone Veil, dans sa lecture, peut-être dans son impartialité vis-à-vis des différentes traditions religieuses, qui vient peut-être du fait que Simone Veil refuse toute appartenance. Elle pense que sa vocation est de circuler dans les différents milieux sociaux de telle manière qu'elle les accueille sans jamais y appartenir, sans jamais y adhérer. Et donc, je ne voudrais pas faire une lecture vulgairement biographique, mais je pense qu'on ne peut pas ne pas tenir compte de cet élément.
Anis Ménesson.
Je pense que c'est vraiment le point aveugle, le point incompréhensible. Je suis d'accord avec vous qu'on se demande pourquoi, alors qu'elle est capable de cheminer sur tant de choses, elle ne le fait pas sur ce point-là. Pascal David, vous venez de formuler une hypothèse que je trouve assez intéressante. Moi, j'avoue que je regrette énormément. Il faut souligner, cela dit, ce que vous avez dit, que sa famille était donc juive, bien sûr.
Mais qu'elle, oui, son père, c'est
bien sûr, c'est tout à fait vrai.
Strasbourg, la mère était une juive d'origine galicienne.
C'est ça, oui. Exactement. Mais il faut savoir qu'elle ne connaît rien au judaïsme. Elle n'a pas été élevée du tout. Elle n'en connaît rien. Et c'est ça qui est le plus surprenant. Elle qui a tant de curiosité, qui se met à
elle
lire...
Elle est déracinée de ce point de vue-là.
Mais totalement. Ouais. Et elle se met à lire, elle apprend le sanskrit pour lire les Upanishads, la Bhagavad Gita, enfin, elle est pleine, le Tao, elle découvre tout et elle n'a aucune curiosité, elle ne fait aucun effort en direction du judaïsme. Ça, c'est le point aveugle. C'est un grand manque dans sa pensée. Elle est morte à 34 ans. J'avoue que dans cette difficulté, à mes yeux, je me dis toujours que si elle avait pu vivre peut-être un peu plus longtemps, elle aurait fini par découvrir ça. Et que la rencontre entre toute la richesse du judaïsme, du Talmud, enfin toute cette richesse de cette tradition et sa pensée aurait pu donner quelque chose que nous ne connaîtrons malheureusement jamais. Mais
est-ce que son frère était, André Veil, le très grand mathématicien, et était dans les mêmes sentiments que Simone Veil?
Non, il se considère comme agnostique aussi quand ils sont jeunes. Hein. Ça, elle le dit, ma famille, nous étions tous agnostiques. Mais il a une relation moins passionnée, enfin moins tourmentée avec, je dirais, avec le. Mais je me base que là sur le livre en fait de Sylvie Veil, qui est la fille d'André Veil, voilà. Où elle parle de ça, et je crois qu'à sur la fin de sa vie, André Veil est revenu un peu vers son judaïsme.
Ah oui. Alors, je voudrais aborder un dernier point. Vous avez fait référence tout à l'heure, Pascal David, à un texte de Simone Veil, En quoi consiste l'inspiration occitanienne,
oui.
Que d'ailleurs vous m'avez fait découvrir, parce que je l'ai lu à cause de vous, vous le citiez. Et c'est très beau, parce que c'est déjà une critique du progrès. Et elle a cette phrase inouïe, nous ne pouvons pas être rendus meilleurs sinon par l'influence sur nous de ce qui est meilleur que nous. Et oui. Ce qui est meilleur que nous, c'est forcément le passé. Ou c'est pas le passé.
Ce sont les grandes œuvres.
Ce sont des grandes œuvres
dont
du
nous
passé.
Héritons. Oui.
Évidemment. Bah, le passé en tant que tel. Mm-hmm. Elle n'est pas passéiste en ce sens. Mais ce qui est meilleur que nous, ça ne peut pas être l'avenir. Et donc, il y a cet aspect. Et elle a aussi cette phrase. Aujourd'hui, le marasme du malheur nous fait prendre en dégoût l'évolution dont la situation présente est le terme. Mm-hmm. Donc, et sur la science, elle dit aussi, la science moderne, son critère, c'est même plus tellement la vérité, c'est l'efficacité. Donc tout ça, c'est un héritage particulièrement précieux de Simone Veil. Pascal David.
Oui, Simone Veil dit, pour que notre pensée demeure, il faudrait écrire des choses éternelles. Ce que je voudrais dire, c'est que Simone Veil est une philosophe qui tient à la fois le présent, qui est inscrite dans son temps, une philosophe qui pense à partir d'un diagnostic du présent et en même temps une philosophe qui se tourne vers les grandes œuvres du passé. Elle tient à la fois le moment présent, la pensée ici et maintenant, et une pensée qui accueille, qui se laisse transformer, qui porte son attention sur les grandes œuvres du passé. Je crois que c'est l'attitude qui est celle de Simone Veil est une attitude qui peut nous inspirer aujourd'hui. Il y a un mot important chez Simone Veil, c'est le mot transposition. Les grandes œuvres du passé, il faut les transposer aujourd'hui. Elle dit « Platon a tout dit ». Nous n'avons plus rien à dire depuis la pensée de Platon. Mais il faut transposer la pensée de Platon pour aujourd'hui. Et donc si nous avons à faire quelque chose avec Simone Veil, si elle nous importe, il me semble, c'est parce qu'elle aiguise notre regard sur l'être humain, sur la condition humaine, sur le monde dans lequel nous vivons. Et sa lecture ne doit pas rester qu'une lecture intellectuelle d'un savoir de connaissance, mais... Il y a un véritable savoir de spiritualité chez elle, un savoir qui concerne toute l'âme et qui vient nous transformer.
Oui. Alice Ménossan, vous êtes d'accord avec
oui,
ça ?
Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que ce qui est important, c'est de voir que ce qu'elle recherche toujours, en effet, ce qui peut faire, ce qui peut être servir, ce qui peut être utile à l'analyse et au diagnostic de son présent, c'est toujours ce qui, dans le fond, est de l'ordre d'une vérité éternelle. Et ces vérités éternelles, elles sont présentes parmi certaines œuvres du passé. Et le travail du penseur, c'est d'aller les chercher pour les transposer, c'est-à-dire les dire, comme elle le dit elle-même, dans une langue qui soit sensible au cœur, elle reprend l'expression de Pascal, au cœur des hommes de son époque. Donc la jonction à faire, c'est entre une vérité qui est d'ordre éternel, mais qui nous est léguée peut-être à travers les œuvres du passé, oui, pour la rendre disponible, tangible, préhensible par les hommes du présent.
Et là, elle dit ceci aussi dans l'enracinement, l'opposition entre l'avenir et le passé est absurde. L'avenir ne nous apporte rien, oui, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner notre vie elle-même. Et elle dit, mais pour donner, il faut posséder. Et ce que nous possédons, c'est les trésors hérités du passé. Digérés, assimilés, recréés par nous, vous l'avez dit tous les deux, de tous les besoins de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le passé. Et ça n'a rien à voir avec une orientation politique réactionnaire.
Oui, ce qui est très intéressant, là, c'est qu'elle prend la peine de répondre à une objection qui pourrait lui être faite.
Oui, et qui lui est faite aujourd'hui, oui, de souvent, manière toujours plus stridente. Oui. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux,
merci.
À Alice Ménesson et Pascal David.
Merci à vous.
Merci,
Alain.
Merci donc de nous avoir éclairés ainsi sur la trajectoire de Simone Veil. Je voudrais citer quelques titres. D'abord, L'Enracinement, qui est publié aux éditions Flammarion dans la collection Chants classiques. L'Enracinement ou prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain. Et on trouve aussi L'Enracinement dans les œuvres complètes de Simone Veil, écrit de New York et de Londres. C'est le tome 5. Je voudrais citer également de Pascal David, Simone Veil, Luttons-nous pour la justice, Manuel d'action politique, et également Simone Veil, Un art de vivre, partant de catastrophes, transformer nos manières de penser et de vivre, aux éditions Peuple Libre.
Si je peux ajouter un mot, ces livres à la fois donnent à lire des textes de Simone Veil et montrent comment on peut les utiliser aujourd'hui, quel usage on peut en faire aujourd'hui. Cherche à transmettre et à transposer la pensée de Simone Veil.
Oui, d'ailleurs, donc, c'est une collection de textes suivis, oui, par une longue méditation,
oui,
dans chacun des livres que j'ai cités. Une longue méditation de vous,
Un effort
Pascal
de
David.
Transposition que c'est Pascal ça. David fait, voilà, pour nous transposer, nous rendre plus sensibles les textes de Simone Veil.
Voilà, et j'ai cité aussi Robert Chenavier, Simone Veil, une juive antisémite, point d'interrogation, aux éditions Gallimard. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Raymond Albouy. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Faut-il que jeunesse se passe ?» Mes invités seront Jean-Pierre Le Goff et Thomas Reverdy. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.